Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B qui s'apprête à commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, une journée de mobilisation à venir contre les pratiques du groupe Carrefour. Deux interviews, d'abord avec des membres d'une intersyndicale remontée contre le choc des savoirs de Gabriel Attal. Puis échange avec l'association Tous au Verger qui sera à l'écomusée de Rennes ce week-end. De la musique, dont une nouveauté, et puis recommandation, une semaine pour l'Ukraine avec des expositions et des conférences. Bienvenue dans l'arène. C'est parti, comme chaque jour, on débute cette émission avec l'info du jour que j'ai choisi pour vous dans tout ce qui se dit dans les médias locaux. Aujourd'hui, on annonce une mobilisation portée par trois acteurs, le comité rennais France-Palestine Solidarité, dont on avait entendu deux bénévoles en novembre depuis la Cisjordanie, mais aussi mobilisation portée par le comité rennais des soulèvements de la terre et la Confédération paysanne. Avec d'autres organisations politiques et syndicales, ils dénoncent les pratiques du magasin Carrefour. Alors dès l'automne, ce groupe avait annoncé fournir des rations alimentaires aux soldats israéliens. Depuis, un accord a été signé, toujours par Carrefour, avec une banque israélienne accusée de fournir des services à 19 colonies israéliennes jugées illégales par le droit international. Ça, et puis des produits de la marque Carrefour qu'on retrouve vendus dans des magasins qui sont implantés dans 8 de ces colonies. Et puis enfin, des produits issus de colonies illégales qui se retrouvent commercialisés chez Carrefour. Les associations locales que j'ai citées, elles souhaitent donc en informer les clients de l'enseigne. Vous croiserez donc peut-être des militants samedi 17 février en matinée devant les entrées de Carrefour Alma à Rennes. Objectif, responsabiliser les clients quant à leurs actes d'achat quand ils se rendent dans cette enseigne. On rappelle que le conflit israélo-palestinien vit des heures sanglantes depuis l'attaque terroriste du Hamas au mois d'octobre 2023. 1200 Israéliens ont été tués, 138 personnes sont toujours retenues en otage. L'État d'Israël a, lui, vous le savez, engagé une réponse militaire dans la bande de Gaza qui a fait près de 29 000 morts à la date du 15 février, c'est le chiffre de l'UNICEF. Et dernièrement, la Cour de justice internationale évoquait, elle, un risque plausible de génocide à Gaza, c'est ce qu'on lit dans le monde diplomatique. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'une première interview au chapitre éducation. Depuis l'enregistrement, j'ai été informée d'une mobilisation au lycée Bréquigny, samedi 17 février. À 9h, les enseignants de ce lycée sont remontés contre la suppression annoncée de 3 postes dans leur établissement pour le mois de septembre, alors que les effectifs ne diminuent pas, et ça confirme ce que vont nous raconter nos 3 invités. Ronan, Walik, Malika Godel et Sophie Olivier, bonjour à tous les 3.
Bonjour.
On est nombreux là autour de la table aujourd'hui. Alors je vous présente Ronan Walik. Vous venez du SNUEP FSU, syndicat de l'enseignement professionnel public. Malika et Sophie, vous êtes membres du syndicat CGT Éducation en Ille-et-Vilaine et vous faites tous les 3 partie d'une intersyndicale qui est mobilisée contre des réformes annoncées à l'école récemment par le Premier ministre Gabriel Attal. On resitue très rapidement aux auditeurs qui parfois peuvent un peu se mélanger les pinceaux avec tous les syndicats qui existent sur le territoire, un peu vos spécificités et puis combien vous êtes sur le territoire. Je vous laisse dire chacun un mot. On commence avec Ronan.
Oui, bah je suis donc secrétaire académique du SNUEP FSU. C'est un syndicat qui syndique les enseignants de lycée professionnel et qui fait partie de la fédération de la FSU. Donc la FSU, c'est la principale fédération au sein de l'enseignement, même si sur les lycées pro, dans l'académie, peut-être que la CGT est devant.
CGT Éducation, donc avec Malika et Sophie.
Alors la CGT Éducation, effectivement, on doit être devant dans les lycées pro, mais ce n'est pas forcément le cas ailleurs. La CGT Éducation, c'est un syndicat qui regroupe l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. On est dans le même syndicat et puis qui fait partie de la CGT. Donc là, les auditeuristes doivent connaître ce syndicat qui est un syndicat interprofessionnel sur l'ensemble des champs et des métiers.
Et alors, ça tombe bien, on a tous les degrés qui sont représentés autour de la table, de l'élémentaire jusqu'au lycée en passant par le collège. Donc, vous êtes mobilisés en ce moment. Notre nouveau, même Premier ministre Gabriel Attal, qui est passé par l'éducation de juillet 2023 à janvier 2024, il porte plusieurs mesures. Il y a d'abord ces groupes de niveau qui concernent donc les collèges. À la rentrée, trois groupes seraient constitués pour les mathématiques et le français. Et ça ne fait pas l'unanimité, c'est un peu un euphémisme même.
Non, ça ne fait vraiment pas l'unanimité dans les salles des professeurs de collège surtout. Ce n'est pas trois groupes, c'est les élèves seraient en groupe de niveau pour toutes leurs heures de français, toutes leurs heures de mathématiques. Pas forcément le même groupe d'ailleurs en français
dans l'un et l'autre.
Ou en mathématiques. Et ils seraient avec tout le reste de la classe, enfin d'une classe pour le reste des enseignements, sauf si dans la classe il y a deux langues vivantes différentes regroupées. Donc pour des enfants, on peut encore dire 10-11 ans qui arrivent en sixième, déjà une inquiétude des enseignants et une alerte envers les parents de leur dire voilà dans quelles conditions vos enfants vont faire la rentrée. Du côté enseignant, la notion de groupe de niveau, c'est associé à une notion de tri par niveau, et on sait bien la corrélation entre le niveau scolaire et le niveau social, donc on y voit très vite un tri social des élèves qui n'est pas du tout dans notre volonté, c'est pas comme ça qu'on veut faire classe. Et puis, un enseignant de mathématiques ou une enseignante de français a besoin de travailler avec tout le temps les mêmes élèves et que les élèves, justement, l'intérêt de classe hétérogène, c'est que les élèves vont pouvoir aussi s'entraider, coopérer, et c'est dans la coopération qu'on apprend le mieux.
Il y a ces trois groupes, donc il y aurait un groupe dit fort, un moyen et un faible. On imagine évidemment l'impact que ça peut avoir d'être dans le groupe faible, peut y avoir un renforcement évidemment de la perception de son propre niveau. Vous souhaitiez ajouter un élément, Ronan Wallick?
Oui, pour compléter ce que dit ma collègue, c'est qu'on voit au niveau communication, le gouvernement présente ça comme un moyen de faire progresser mieux les élèves et des choses comme ça. Alors que toutes les études qu'il y a eu sur les groupes de niveau ont montré que c'était un échec, que les élèves, les plus faible entre guillemets, j'ai horreur de ce terme-là, mais c'est celui qui est employé, finalement progressait encore moins, était encore plus en difficulté, et même pour les plus doués entre guillemets, rien ne prouve qu'ils avancent mieux. Donc pour un gouvernement qui de temps en temps se dit qu'il veut faire des choses rationnelles, c'est pour le coup complètement irrationnel.
Vous étiez mobilisé lundi, donc cette semaine, lundi 12 février, devant le collège des Ormeaux à Rennes, pour vous opposer à ce projet de groupe de niveau. Font également partie, on le dit, de l'intersyndicale Sud FO et la CFDT. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un communiqué de presse que vous avez publié, on lit qu'à la fois les équipes éducatives, les syndicats enseignants, la plupart des fédérations de parents d'élèves et aussi le syndicat majoritaire des chefs d'établissement s'opposent à ces groupes de niveau avec plusieurs arguments, et notamment celui que être bon ou mauvais, c'est pas si simple. On peut être bon à l'oral en français, avoir des difficultés à l'écrit, ou au contraire en maths, être bon en géométrie et moins sur de l'arithmétique, par exemple.
Bien sûr, et puis c'est pas figé dans le temps. Ces groupes de niveau, pour qu'ils soient opérationnels à la rentrée, ce sont les enseignants, les enseignantes de primaire, des élèves de CM2 qui vont être en devoir de faire ce tri. Les élèves, ils évoluent assez vite, et en effet, en fonction du thème qu'on est en train de travailler, du sujet, du support, ils vont accrocher, ils vont progresser. En fonction de, comme je disais, de la coopération avec leur père, les autres élèves, ils vont bien évoluer, bien progresser sur un sujet et pas sur l'autre, et ça n'a aucun sens, cette histoire de groupe de niveau.
Malika Godel.
Je me permets de rajouter aussi qu'on a bien vu, comme l'a dit Ronan Wallick, que les élèves, en fait, il y a une émulsion entre eux, et c'est bien entre pairs qu'ils apprennent énormément, mais également autre chose que du savoir savant. On a aussi des compétences sociales à apprendre à l'école primaire et au collège et au lycée. Et ces compétences-là, c'est bien quand on se confronte à la diversité, quand on rencontre des élèves qui sont d'autres niveaux, qu'on va enfin pouvoir les acquérir. Là, si on fait un tri, c'est fini pour ces compétences-là. On va avoir des personnes qui ne sauront pas se comporter avec quelqu'un qui est différent.
On comprend qu'in fine, vous êtes aussi un peu inquiet de ce que ça va contre l'idée de vivre ensemble et contre l'idéal de mixité sociale. Il y a aussi la question qui se pose de où va-t-on donc trouver les 2330 équivalents temps plein nouveaux ou redéployés pour faire vivre ces groupes de niveau. Je continue à lire votre communiqué. Les personnels éducatifs le savent bien, ce qui permet aux enfants de progresser, ce sont des effectifs de classe raisonnables, des projets stimulants, pourquoi pas des dispositifs en petit groupe pour une aide ponctuelle, plus d'AESH, ces accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ça, on n'y est pas, y compris sur le territoire breton. Peut-être Malika Godel pour l'élémentaire.
Oui, alors là-dessus, on a vraiment un très très gros manque sur notre territoire. Alors sur l'Ille-et-Vilaine particulièrement, mais c'est un manque en fait qui découle de choix budgétaires qui sont extérieurs en fait à l'éducation nationale. Enfin, en tout cas, pas que dans l'éducation nationale, puisque on a un besoin d'AESH pour les élèves qui sont en école et qui ont au collège et au lycée d'ailleurs et qui ont besoin d'accompagnement. Mais on a aussi des élèves en fait qui sont en école, en lycée, en collège, mais qui sont en attente de structures extérieures. Et il y a énormément de manques en médico-social. Et là, ce sont bien des choix budgétaires, des choix de notre ministère, mais aussi des autres ministères, des choix gouvernementaux, qui fait que nous n'avons pas du tout assez de places. Il faut savoir qu'on serait autour de 1000 places en manque, donc juste sur notre département. Ça veut dire plus d'un enfant par école ou établissement.
Renan, Walik.
Oui, juste pour compléter, parce qu'effectivement, dans le communiqué, il est évoqué les classes moins chargées. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'est jamais évoqué par le gouvernement. Parce qu'on nous dit qu'il y a une baisse démographique en France, donc on va en profiter pour supprimer plein de postes. D'autres pays avant nous ont connu la baisse démographique, mais eux, ils en ont profité pour baisser les effectifs et ainsi mieux travailler. Il faut savoir simplement un chiffre global, alors après c'est des moyennes, donc ça peut se discuter localement, mais il y a 26 élèves par classe en collège en France, il y en a 21 dans la moyenne de l'Union européenne. 5 élèves, ça paraît pas tant que ça, et en fait c'est primordial dans la façon de pouvoir travailler de façon plus personnalisée. Je prends un autre exemple, hein, les aides personnalisées qu'il y avait en lycée professionnel, quand tout le monde entend aide personnalisée, tout le monde s'attend à ce qu'on puisse accompagner des élèves, en fait les aides personnalisées c'est en classe entière. En classe entière.
Difficile d'être personnalisé, quoi.
Voilà.
Sophie Olivier.
Oui, pour compléter par rapport aux effectifs par classe, en effet, il faut savoir donc qu'une séance de cours, c'est 55 minutes. Donc, en effet, moins on a d'élèves dans la classe, et la différence entre 25 et 30 élèves, oui, c'est énorme sur le temps qu'on peut leur accorder. Évidemment qu'il y a des élèves autonomes sur un sujet et qui vont, ou à 2-3, réussir à coopérer et y arriver. Et heureusement qu'ils sont là, ce qui nous permet d'avoir du temps pour les autres élèves. Mais plus on a d'élèves dans la classe et moins on a de temps par élève.
C'est important de leur dire, d'autant plus que votre ancienne ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, depuis remplacée par Nicole Belloubet, justement, laissait entendre que moins d'élèves dans les classes n'était pas forcément synonyme de réussite scolaire. Ce que deux études, là encore, démontrent, c'est peut-être le moment où on évoque les fermetures de classes qui sont annoncées pour septembre en Ille-et-Vilaine, mais plus globalement dans l'Académie de Rennes, qui couvre toute la région. Alors, on est sûr à peu près 90 fermetures de classes annoncées, 60 ouvertures. Tout ça peut encore bouger avec, c'est lié à la carte scolaire qui n'est pas encore arrêtée définitivement. C'est peut-être plus intéressant de regarder au niveau des postes qui sont supprimés plutôt que des ouvertures, fermetures de classes.
Oui, là, les chiffres annoncés, c'est les chiffres dans les écoles et seulement. Et effectivement, on n'est pas énormément en baisse en fait dans notre département sur le nombre de postes, mais il y a des priorités qui sont mises par le gouvernement qui font qu'on va quand même fermer des classes à la rentrée. Les priorités, ça va être, et du coup ça contredit complètement ce qu'avait dit Amélie Castéra Oudéa, c'est-à-dire qu'on essaie de baisser le nombre d'enfants par classe en éducation prioritaire et en grande section CPCE1. Voilà, alors déjà là-dessus, nous on n'est pas d'accord avec ce principe-là, qu'il y ait des baisses d'enfants par classe, c'est important, il le faut absolument, mais si le faire sur 3 années seulement, ça ne va rien changer. C'est bien un lissage sur l'ensemble des années de l'école primaire, mais également sur le collège et le lycée dont on a besoin. Et en plus de ça, là, on se retrouve du coup à avoir des écoles qui ferment des classes, donc des écoles où le nombre d'élèves ne va pas baisser, voire il va augmenter.
Il faut dire que le taux, le rapport entre nombre d'élèves par enseignant est plus élevé en Ille-et-Vilaine qu'ailleurs en Bretagne, et plus élevé en Bretagne qu'ailleurs en France. C'est bien résumé.
C'est ouais. Tout à fait ça. Sur les fermetures de postes aussi dans le second degré, donc c'est 80 postes sur l'académie qui sont supprimés, donc 43 en Ille-et-Vilaine. Et principalement, ces fermetures de postes vont être dans les lycées généraux et technologiques, alors que de la même manière, il y a quelques élèves en moins, mais on aurait pu en profiter pour baisser le nombre d'élèves par classe, qui sont à plus de quasiment 35 sur la plupart des heures de cours.
Ronan Wallick, sur les lycées, puisque vous êtes en lycée professionnel.
Sur les lycées professionnels, effectivement, quand on regarde les chiffres bruts, on pourrait quasiment se réjouir, parce qu'en lycée professionnel, il y aura quelques postes en plus. Sauf que ça correspond au gros problème qu'il y a sur le bassin rennais, puisqu'il faut savoir que l'année dernière, à la fin des affectations des élèves de 3e, plus de 600 élèves, donc de jeunes de moins de 16 ans qui devaient être scolarisés, n'avaient rien. Aucune place en lycée professionnel était chez eux. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'il va falloir essayer de monter quelques formations, mais de briques et de broc, parce que c'est pas réfléchi, pour essayer d'accueillir ces élèves. Mais même avec ces quelques postes de plus, on sait pertinemment, tout le monde le sait, qu'au mois de juin et juillet, il y a des élèves à la fin de la troisième qui ne seront affectés aucune part et dont les familles vont stresser pendant tout l'été pour savoir comment trouver une solution. Et certains ne trouveront des solutions qu'au mois de novembre.
Mmh. Et ils deviennent quoi, ces élèves, alors? Ils ont une solution tardive? Pour certains, ils n'en ont pas du tout?
Ils restent chez leurs parents en attendant qu'on leur trouve quelque chose. Et ça peut être très long.
Sophie Olivier?
Oui, et beaucoup, en fait, démarrent un apprentissage.
On arrive à cette réunion publique qui est organisée lundi prochain, le 19 février, à partir de 18h30. Ça se passe ici, à la Maison des associations de Rennes. Tout le monde est invité à participer, donc pas juste les profs, mais aussi les parents, voire même les élèves, chefs d'établissement, citoyens, citoyennes. Tout le monde est concerné et invité à ce temps d'échange. Ce moment portera sur le thème « Casse et tri social dans l'éducation, comment s'y opposer ?» Ça dépasse donc les groupes de niveau. Il sera question d'école inclusive mais menée sans moyens, d'uniforme obligatoire. On sait que l'expérimentation qui débutera à la rentrée prochaine. On reste peut-être au lycée puisqu'il y a des changements qui sont attendus. Le projet qui était mené au lycée général arrive au lycée professionnel avec des examens qui vont être avancés, aussi dans une logique budgétaire.
Une logique surtout de trouver de la main-d'œuvre immédiate. L'idée, c'est qu'effectivement, jusqu'à présent, comme n'importe quel élève de terminale, les élèves de terminale bac pro passaient leurs examens à partir de la mi-juin. Et avant, ils avaient des stages et des cours. L'idée est de ramener ces examens-là à la mi-mai, donc un mois de cours de perdu. Et après, de faire une usine à gaz où certains partiraient en stage s'ils comptent s'insérer dans la vie active après. Et d'autres reviendraient au lycée pour préparer éventuellement un BTS, sachant que les élèves pourraient changer d'avis en cours de route, donc il y aurait des allers-retours semaine par semaine, voire jour par jour, entre ces élèves. Ça plus des diminutions d'horaires, hein, parce que sur chaque classe, que ce soit en seconde, en première ou en terminale, il y a des heures qui seraient en moins pour les élèves. Ça amène globalement à ce que les élèves de bac pro perdent 170 heures d'enseignement sur leur cursus de 3 ans. Voilà, donc c'est ça.
Du lycée, on revient au collège avec des changements attendus pour ces élèves qui n'auraient pas leur... alors, je ne sais plus comment on dit, le BEPC, non? Le
DNB.
Ah, ça
change. Diplôme national du brevet.
Le diplôme national du brevet. Pour ces élèves qui ne l'ont pas, il y aura un nouveau dispositif à travers des classes prépa, bien loin des classes préparatoires qui sont proposées après le lycée. Ça aussi, ça vous inquiète?
Oui, oui, oui. Une centaine d'élèves dans le 35, je crois, n'ont pas obtenu leur DNB l'an dernier. Jusque-là, le DNB n'est pas un passeport pour accéder au lycée général et technologique ni au lycée professionnel. Et la plupart des élèves qui n'avaient pas leur DNB, tous les élèves qui n'ont pas leur DNB, de toute façon, ont la possibilité de le repasser l'année suivante. Et la plupart le repassaient. Et en fonction des années, les taux de réussite sont plus ou moins bons. Mais on ne comprend pas d'où vient cette idée parce que il n'y a aucune corrélation entre l'obtention de ce diplôme et Alors, c'est très, très, très flou. Il y aura une expérimentation, là, à la rentrée 2024, sur cette classe particulière pour revoir, là encore, les savoirs fondamentaux, les compétences du socle, tout le vocable du gouvernement autour de ce que les élèves devraient avoir comme acquis.
La deuxième partie du titre de la réunion publique qui est organisée la semaine prochaine, c'est comment s'y opposer, comment réagir collectivement avant qu'on débute. Moi, je partais du principe que vous étiez un peu fataliste parce que le sujet éducatif est sur la table depuis longtemps. Vous êtes mobilisés tous depuis longtemps, souvent remontés contre des projets de réforme menés par le gouvernement. Et pourtant, non, vous êtes mobilisés, quoi, déterminés.
On est en lutte, jamais fataliste.
Et puis je dirais que la lutte est pas inutile. Si je reviens sur le projet de terminal bac pro, le projet au départ qui était en place de la ministre Madame Grandjean, parce que nous on avait la chance d'avoir deux ministres, c'était des examens mi-mars. Parce qu'elle avait copié sur le lycée général. Et c'est bien la grève, la mobilisation des collègues qui a fait reculer ça jusqu'à la mi-mai. Alors on est encore perdant, c'est vrai. Mais il n'empêche qu'on a bien vu que là, il y a de la fébrilité. Et donc l'idée, c'est continuer à se mobiliser pour que tout ce qu'on a perdu, on le regagne, voire un peu plus.
Carole Grandjean, qui était ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle dans un gouvernement précédent. Si on parle de mobilisation, je termine avec un mot sur cette pétition qui est en ligne sur le site mapétition.org, qui compte aujourd'hui 47 000 signataires dans le département. Et le mot d'ordre, c'est le suivant: non au choc des savoirs, le projet mené par le Premier ministre Gabriel Attal. Je vous représente tous les trois, Malika Godel et Sophie Olivier, donc pour le syndicat CGT Éducation en Ille-et-Vilaine, et Ronan Wallick pour le SNUEP FSU, syndicat de l'enseignement professionnel public. Vous faites tous partie de cette intersyndicale mobilisée contre les réformes annoncées à l'école et qui organise donc une réunion publique lundi prochain. Rendez-vous à la Maison des Associations de Rennes à partir de 18h30. Merci beaucoup.
Je me permets de rajouter, parce qu'on vous invite évidemment à la réunion publique, mais on est également mobilisés le lendemain. Ce sont les écoles de Rennes Sud, particulièrement les écoles maternelles, qui organisent un rassemblement pour demander des moyens, particulièrement pour l'inclusion, mais des moyens de façon générale. Donc ils seront à 16h45 devant le conservatoire au Blône, et on invite à tout le monde à les rejoindre, parce qu'il y a vraiment besoin que les parents d'élèves soient là, les citoyens, les citoyennes soient là, mais également les collègues qui travaillent tout autour.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
On l'a dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin. Le voisin à la bouchère à son gamin. Son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, doit tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce, Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment enfance, Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elle ne ferait plus rien. Toutes les Clémences, comment on enfonce, elle serait bien. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elle ne ferait plus rien. Toutes les Clémences, comment on enfonce, se reposerait enfin.
Clémence en vacances d'Anne Sylvestre. Ne vous plaignez pas de trop entendre du Anne Sylvestre dans l'émission. Cette fois-ci, c'est pas moi. C'est le choix musical de la CGT Éducation qu'on avait en interview en studio juste avant. Un morceau de 1977 qu'on retrouve sur l'album Comment je m'appelle. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B qui s'écoute sur le 94.0, également sur le DAB, la radio numérique terrestre, et puis en ligne sur canalb.fr. Toutes les émissions des salariés et des bénévoles sont à retrouver en podcast sur ce site. Musique, culture, militantisme, des programmes alternatifs qui confirment, je l'espère, notre statut de radio curieuse. Allez, on continue cette émission avec une seconde interview. Didier Chemin, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes le président de l'association Tous au Verger qu'on retrouvera à l'écomusée de la Bintinet à Rennes dimanche prochain, le 18 février de 14 à 18h. On le redit, l'écomusée, pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est sur la route de Châtillon-sur-Seiche et on peut même le faire à pied en 15 minutes à partir de la station de métro Blône. Tous au Verger, c'est une association qui est basée à Vitré, à peu près 40 km à l'est de Rennes. Elle a été créée finalement assez récemment, il y a 5 ans, c'est ça Didier ?
Oui, en 2019, par deux jeunes de Vitré. Hein. Et son but, bah, c'est de valoriser les fruits qui se perdent dans les vergers, bah, surtout sur les arbres, sur le domaine public et le domaine privé. C'est-à-dire qu'on va aussi chez les particuliers cueillir les fruits quand ils nous font appel à nous.
Et ça partait d'une observation, de voir qu'il y avait beaucoup de fruits qui tombaient par terre sans être ramassés, c'est ça ?
Oui, parce que sur la commune de Vitré, il y a 3 vergers, donc il y a des pommiers surtout, et les fruits ben, étaient laissés à l'abandon parce que les gens n'osent pas non plus servir trop sur le domaine public, on va dire. Donc on a passé une convention avec la ville de Vitré, on a 3 vergers en convention et qu'on gère, on l'entretien des arbres, la récolte des fruits, et voilà, et après la transformation aussi des pommes en jus de pomme.
Vous êtes combien aujourd'hui dans les équipes de l'association Tous au Verger ?
Alors, dans l'association, il y a un peu plus de 80 particuliers et un peu plus d'une vingtaine de municipalités, collectivités, associations aussi. Donc, ça fait déjà pas mal de monde.
Et qui couvre quel territoire ? C'est plutôt la région de Vitré ?
On couvre, alors pour la cueillette des fruits, c'est surtout la région de Vitré et pour les formations... les municipalités, c'est la couronne de Rennes et puis Vitré et les communes avoisinantes.
En plus des équipes donc, qui sont déjà mobilisées, est-ce que vous cherchez toujours des potentiels bénévoles qui sont intéressés par votre démarche et qui pourraient vous rejoindre ?
On peut tout, oui, on prend toujours des bénévoles, mais c'est vrai qu'on, là, on est beaucoup de monde déjà, mais c'est toujours bien d'avoir des personnes en plus intéressées par, par la cueillette des fruits surtout.
Dans les vergers donc de la région de Vitré, vous intervenez, évidemment vous cueillez des pommes, mais aussi des cerises, des noix, des nèfles, des noisettes et des mûres. J'ai fait le tour à peu près des fruits que vous récoltez.
Enfin, on a fait des cerises, des prunes, du raisin, des figues, des framboises, des kakis, des mûres, voilà, cette année. Donc ça représente à peu près une tonne de petits fruits, que j'appelle ça, moi, et qu'on a redistribué aux propriétaires au départ, aux gens de l'association et puis aussi au Resto du Cœur et à l'épicerie solidaire de Vitré.
Ça veut dire, là, quand on évoque les fruits que vous cueillez, que vous êtes surtout actif sur la période été-automne ?
Bah, du mois de juin jusqu'au mois de décembre, pratiquement, suivant les demandes qu'on nous fait d'aller cueillir les fruits et de ce qu'il y a de disponible par rapport aux quantités, par rapport à la saison aussi.
Et ensuite, après la cueillette, vient l'étape de la valorisation. Donc, vous fabriquez du jus de pomme. Il y a aussi une redistribution, vous l'avez dit, plutôt à vocation sociale. Et il y avait l'idée d'essayer de trouver un local, justement, pour faire de la valorisation. Ça a été fait ou c'est encore en cours ?
Alors, c'est en cours. On attend une proposition. Et je pense qu'on voudrait faire, oui, après, ça serait de transformer les fruits que l'on a, à part le jus de pomme, faire des recettes pour les cerises, les prunes, voire échanger tout ce qu'on peut mettre en commun et un peu faire autre chose que des conserves ou que des tartes, quoi.
Et pour l'instant, ça se passe où, l'étape de transformation et de valorisation ?
Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'étape de transformation parce qu'on n'a pas de local, donc... Pour l'instant, on est un petit peu bloqué, mais on espère que ça va évoluer.
Ça veut dire que pour les jus que vous réalisez, vous vous tournez peut-être vers un prestataire extérieur ?
Alors, pour le jus de pomme, oui, il y a un prestataire qui vient sur Vitré, qui fixe une date. Et là, on vient, et même d'autres, les particuliers viennent aussi ce jour-là. Et on presse pomme, on en fait du jus de pomme. Et là, le jus de pomme, c'est pour nous essentiellement. Donc les adhérents et puis nos manifestations, c'est-à-dire qu'on fait pas de vente de jus de pomme, quoi. Les pommes cueillies, c'est 1 à 2 tonnes par an.
Donc ça suffit à satisfaire essentiellement les adhérents,
oui,
de l'association.
On n'est pas là pour faire de la concurrence aux producteurs de pommes.
On se retrouve là avant que le printemps n'arrive, on est encore en hiver, pour annoncer un événement sur l'entretien du verger, puisque c'est maintenant qu'il y a des choses à faire. Si on a des arbres fruitiers chez soi, vous êtes vous-même au travail dans les 3 vergers que vous gérez à Vitré ?
Oui, alors là, on va faire ça au mois de mars, là, parce que c'est la période, c'est en hiver, pour les arbres fruitiers, c'est-à-dire les arbres à pépins qu'on appelle, donc les pommiers, les poiriers surtout. Et pour les arbres à noyaux, c'est plutôt après la cueillette des fruits, donc c'est plus fin d'été et automne, quoi.
Dimanche 18 février de 14h à 18h, on vous retrouvera à l'écomusée de la Bintinet à Rennes où vous donnerez des conseils d'entretien au public présent. Vous montrerez aussi les bons gestes à travers des démonstrations. S'il fallait en retenir une, ce serait quoi l'erreur classique du débutant qui découvre la taille d'arbres fruitiers ?
Alors l'erreur classique, c'est de ne pas tailler, parce qu'il faut tailler pour faire fructifier l'arbre. Alors après, il y a des méthodes, il y en a plein, mais bon, nous, on explique, on fait des formations de taille des arbres. Donc, on explique comment faire. On a une petite vidéo et après, on va sur le terrain pour montrer aux gens devant des arbres comment faire exactement. Donc, les formations de taille, ben, ça dure une journée. Donc, la matinée en salle avec explication et l'après-midi, démonstration sur le terrain devant des arbres pour expliquer comment entretenir l'arbre, qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux.
Et est-ce qu'à contrario, on peut trop tailler un arbre et empêcher l'arrivée de fruits ?
Oui, si on enlève trop, oui, si on enlève les bons bourgeons qui sont à fruits, il faut savoir reconnaître les bourgeons à fruits, enfin à fleurs qu'on appelle, et puis les bourgeons à bois.
Bourgeons à fruits, à fleurs ou à bois, pour tout y comprendre, le mieux c'est de venir vous voir dimanche. Vous organisez aussi des formations sur le thème de la greffe, à chaque fois sur 2 jours et demi, et les participants repartent avec 2 pommiers et 2 poiriers. On peut renvoyer vers le site internet toussauverger.fr. Il y a plein d'informations à retrouver en ligne sur ce sujet-là. Dimanche prochain, le public il pourra aussi repartir avec son greffon à planter dans son jardin au tarif de 4 euros l'unité. Ce seront des greffons essentiellement de pommiers, non, que vous vendrez ?
Alors, on aura des pommiers et des poiriers. Donc, il y aura des petits arbres. Ce sont vraiment des arbres d'anipion pour des jardins. Ce ne sont pas des arbres hauts pour mettre dans des vergers. Et là, vous pouvez, il y aura un panel de à peu près 60 variétés de pommiers et une vingtaine de variétés de poiriers au choix à choisir suivant ce qu'on veut mettre dans son jardin et ce qu'on veut avoir comme fruit plus tard. Voilà. Et il y aura aussi une démonstration, une visite du verger de la matinée avec explication des pommiers, d'entretien des pommiers, des maladies aussi qui peuvent survenir sur tous ces arbres fruitiers là. Et puis il y aura aussi, à côté, il y aura une vente de nichoirs pour abriter les oiseaux. Et puis après, on expliquera aussi notre association, nos démarches, nos interventions aussi.
Donc tout ça, c'est à vivre dimanche. Et évidemment, donc il y a régulièrement des animations qui sont proposées à l'écomusée de la Bantinais. C'est toujours aussi l'occasion de se promener dans le parc, de voir les animaux et puis d'avoir aussi accès à une exposition en ce moment qui est sur le cuir à l'écomusée. Sur place dimanche, toujours sur le thème de l'entretien du verger, on retrouvera aussi la direction des déchets de Rennes Métropole pour une animation autour de la valorisation des tailles et des tombes de jardin. Puisque là, depuis très récemment, en 2024, ces tombes de jardin ne sont plus collectées en déchetterie, en tout cas sur le territoire de Rennes Métropole. Et puis à 16h, temps fort durant l'après-midi, le public pourra découvrir avec la Cinémathèque de Bretagne un film « Prendre soin de la terre ». C'est une réalisation de Guy Chapouillet qui sera présent pour un échange à l'issue de la projection et dont on écoute un extrait.
Moi je sais pourquoi je suis en bio. Ça serait trop long de répondre certainement à cette question, mais je crois qu'il est important que chacun puisse se poser cette question-là, en âme et conscience vraiment. Et il n'y a pas de bonne raison ou de mauvaise raison. Tout le monde aura sa raison à lui et saura pourquoi il a envie de consommer bio ou il n'a pas envie de consommer bio. Mais il faudra vraiment que tout le monde individuellement puisse se poser cette question. Moi, je ne vais pas donner ma définition. Disons que c'est pour que je puisse me regarder le matin dans une glace. Et me dire que, j'ai fait le maximum, ou je crois avoir fait le maximum de ce que je pouvais faire.
Et voilà. C'est le moment où vous me dites, Didier, s'il y a des choses à ajouter qu'on n'a pas évoquées et qui sont importantes.
Ouais, voilà. Oui, le 9 mars, on sera là sur la commune de Montreuil-sur-Pérouse pour greffer une quarantaine de pommiers. Et ça, c'est dans le cadre de la municipalité qui met un arbre par naissance sur sa commune. Donc on va greffer une quarantaine de pommiers. On sera aussi dans un mois encore à la Bantinais, le 16 mars, voilà, je cherchais la date.
D'accord.
Et aussi, on sera sur la commune de La Chapelle Herbrée le 27 avril pour une démonstration aussi d'explications là de taille et de greffage, et aussi d'affûtage, d'outils de taille de jardin, là, tout ce qui sert à entretenir les arbres.
Donc tout ça, ça peut être, j'imagine, retrouvé en ligne sur votre site internet toussauverger.fr. Et par curiosité, vous avez toujours été entouré d'arbres fruitiers dans votre lieu de vie ?
Oui, parce que mes parents étaient agriculteurs, donc il y avait souvent dans les fermes quand même des vergers. Et puis moi, j'en ai dans mon jardin. Et voilà, donc et avoir des fruits que l'on cueille nous-mêmes, c'est très intéressant et valorisant, quoi.
Je vous représente Didier Chemin, vous êtes le président de l'association Tous au Verger, association installée à Vitré, à 40 km à l'est de Rennes. Et on vous retrouvera à l'écomusée de la Bantinais à Rennes dimanche prochain de 14 à 18h. Donc ça se passe à l'écomusée qui est tout près de la station de métro du Blône. L'entrée elle est libre pour cet événement, la projection de film elle a lieu à 16h. Tout ce programme il est à retrouver en ligne sur le site écomusée-rennes-métropole.fr. Merci beaucoup Didier.
Merci, au revoir.
sont bien trop grands pour ne tenir qu'à toi. J'espère que tu comprends. Un jour tu es parti, revenu mille fois, ça recommence là. Je ne peux m'en prendre qu'à toi. Je m'en donne à cœur joie. À cœur joie je m'y donne, je m'y donne, je m'y donne. Tu peux compter sur moi. Résonne plus fort, l'écho est infini. Tout à coup tout s'endort. C'est toi qui me réveille et je vois ton reflet. Tu me souhaites que je paye. Je ne peux m'en prendre qu'à toi. Je m'en donne à cœur joie. À cœur joie je m'y donne, je m'y donne, je m'y donne. Tu peux compter sur moi. Cœur joie.
The Reed Conservation Society sur Canal B avec le titre « À cœur joie » puisqu'on en a besoin de joie. C'était une nouveauté musicale sélectionnée par Yann, notre programmateur musical ici à la radio, et que vous pouvez retrouver sur un album « La Société de Préservation du Roseau ». Ça colle plutôt bien avec notre interview sur les arbres. Ce disque il est sorti début février chez Violette Records et c'est le premier album entièrement francophone de ce duo parisien formé par Stéphane Osney et Mathieu Blanc. Pour les voir sur scène, tiens, il y a une date à venir, le 23 février à Nantes, au nouveau studio Théâtre. L'Arène, c'est l'émission d'info locale de Canal B que vous êtes en train d'écouter, et ce n'est pas fini. Tiens, on est vendredi, c'est jour de newsletter, ce courrier de l'Arène que j'envoie aux abonnés. Chaque semaine, de nouvelles personnes tentent l'expérience. Il suffit d'envoyer un email à l'adresse lucie@canalb.fr et puis ensuite, chaque vendredi, vous recevrez un résumé de ce qui s'est dit dans cette émission avec la mise en lumière de plusieurs sujets, reportages et interviews. Quand même, avant de se quitter, la recommandation du jour. À chaque fois, en fin d'émission, des petits conseils d'événements à vivre près de Rennes, parfois aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou encore de documentaire. On prend un petit peu d'avance là pour annoncer la Semaine pour l'Ukraine qui est organisée par l'association Solidarité Bretagne-Ukraine. Une façon de continuer à parler de ce conflit et de ses victimes 2 ans après le début de la guerre menée par la Russie. Alors la Semaine pour l'Ukraine, c'est d'abord 2 lieux d'exposition. Regard sur l'Ukraine, c'est déjà à voir maintenant au TNB, le Théâtre National de Bretagne, et jusqu'au 29 février. Une rencontre avec l'artiste Fanny Le Chevalier avait d'ailleurs lieu cette semaine. Les cadets de Bretagne, qui sont eux installés rue d'Entrain, toujours à Rennes, accueillent également 2 expos, Kharkiv, ville ukrainienne en guerre, et Déplacée au pluriel. Une lecture de témoignages menée par l'âge de la tortue et un concert de la chorale Mélanka seront organisés dans le prolongement de ces expositions, lundi prochain, le 19 février, à 18h. La Semaine pour l'Ukraine, ce sont aussi 3 conférences organisées la semaine prochaine à l'Institut d'études politiques Sciences Po Rennes. À chaque fois, c'est à 18h. Multiplicité et limite des sanctions conséquences internationales et européennes de la guerre en Ukraine. Ça, c'est le sujet exploré mardi en compagnie de Ninon Forster, qui est professeur agrégé de droit public à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Le mercredi, pourquoi l'Occident ne s'engage-t-il pas plus en faveur d'une victoire de l'Ukraine? Une question qui sera posée avec Alla Podi, analyste géopolitique et spécialiste du monde ex-soviétique. Enfin, le jeudi sera consacré au procédé de désinformation du Kremlin avec Cécile Vessier, une locale, puisqu'elle est professeure en études russes et soviétiques à l'université Rennes 2. Cette semaine pour l'Ukraine, elle se conclura par une marche de solidarité samedi 24 février à 14h au départ du Mail François Mitterrand à Rennes. Plus d'infos sur le site solidarité-bretagne-ukraine.org. La Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Rennes, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.